Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'écouter l'intervention de Renaud Garcia, qui est professeur de philosophie dans un lycée à Marseille. L'intervention qu'il a effectuée durant les rencontres d'été 2020 organisées par l'association Crise et Critique, une association de plutôt tendance marxiste qui essaye de renouveler la critique de la valeur. Et donc, à cette occasion, il présente le contenu de son livre intitulé « La collapsologie ou l'écologie mutilée » qui a été publié en octobre 2020 aux éditions L'Échappée. Renaud Garcia fait dans cet ouvrage une critique radicale de la collapsologie au nom d'une écologie elle-même radicale, c'est-à-dire en fait qu'il n'oublie pas la critique de la société capitaliste et industrielle qui est à l'origine de ce fameux collapse, de cet effondrement dont les collapsologues nous rebattent les oreilles. Petite précision, Renaud Garcia collabore également à la revue de recherche et d'expression anarchiste Réfraction et il a coordonné la rédaction du numéro 44 qui a été publié au printemps 2020 et qui contient justement un dossier sur la critique de la collapsologie avec des articles de différents auteurs dont moi-même, soit dit en passant. Je donnerai plus de précisions par la suite et surtout si j'en parle, c'est du fait que Renaud Garcia le mentionne ce numéro dans son intervention et donc voilà, c'est un peu pour resituer le contexte. Il se trouve que Pablo Servigne, un des créateurs de la collapsologie en 2015 avec son livre « Comment tout peut s'effondrer », petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, ça s'était publié aux éditions du Seuil dans la collection Anthropocène, donc en 2015, avait participé lui aussi à la revue Réfraction quelques années auparavant. Et c'est pour ça qu'il s'est fait passer un moment pour un anarchiste. Maintenant, bon, il est plutôt du côté du Conseil national de la Nouvelle Résistance ou d'autres personnages comme James Bendel, etc. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, en 2015 ou en 2016, je ne sais plus, j'avais fait une émission à partir d'une des conférences de Pablo Servigne. C'est une émission Racine de Moisin que vous pouvez toujours écouter, télécharger sur le site de Radio Zinzine. Et à l'époque, j'avais déjà pointé le caractère très dépolitisé de ce discours. Donc je vous renvoie à cette émission pour en savoir plus sur la collapsologie aussi. Voilà, depuis, Pablo Servigne est vraiment devenu le pape de la collapsologie. On ne compte plus ses interventions dans les médias, les interviews, les conférences sur internet, les tribunes ou appels qu'il signe dans les journaux et ailleurs, etc., etc. C'est devenu une grande vedette médiatique. Il faut bien dire aussi qu'il n'hésite pas à s'associer avec les pires crapules de l'écologie spectaculaire et marchande, genre Nicolas Hulot, Cyril Dion, etc. Et donc, bah voilà, il est temps de faire la critique de la collapsologie et une critique qui soit assez intelligente et argumentée. Et je pense que Renaud Garcia, auquel je cède tout de suite la parole, va réussir à vous convaincre.
Bonjour à tous et toutes. Alors, ben, on vient de parler abondamment d'anthropocène, de capitalocène, de distinctions subtiles et philosophiquement profondes. Voilà typiquement le genre de discussion qui paraît très stérile à un collapsologue. Alors, pour faire simple et résumer ce que peut être la collapsologie, je passerai d'abord par une image. Imaginez que vous venez de franchir une porte et la porte s'est refermée derrière vous. Il y a quelques secondes, minutes, années peut-être, ensuite, vous aviez la possibilité de bifurquer. Désormais, c'est absolument impossible de bifurquer. La porte s'est refermée. Et face à vous, il y a un horizon, mais cet horizon, en fait, il est obstrué de pollution, d'émeutes, de pulsions suicidaires, etc. Vous avez passé la porte et vous vous retrouvez dans Le troupeau aveugle, ce roman de science-fiction de John Brunner de 1972. Donc ça, c'est cette image, la collapso. Face à nous, un futur sans avenir, j'essaierai d'y revenir. Et puis, derrière nous, un passé qu'on ne peut même plus voir, la porte s'est refermée. Si j'en donne une traduction un petit peu plus savante, collapsologie est un néologisme qui a été formé ou forgé par deux ingénieurs agronomes scientifiques, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, vers les années 2014-2015, qui renvoie à un best-seller d'un auteur, d'un géographe, anthropologue qui s'appelle Jared Diamond. Le best-seller de Diamond s'appelle Collapse, comment les sociétés choisissent, décident de leur survie, de leur avenir ou de leur destruction. Dans cette grande enquête, sujette à caution, à énormément de critiques, etc., Diamond étudiait divers cas d'extinction de civilisation, par exemple la civilisation de l'île de Pâques, hein, qui aurait été victime d'une sorte de pulsion suicidaire. Voilà. Donc la collapsologie s'appuie sur Diamond, et elle s'appuie aussi sur un archéologue qui s'appelle Joseph Tainter, qui, dans les années 80, avait écrit un livre qui s'appelait « Effondrement, l'effondrement des sociétés complexes ». Alors, pour le dire très simplement, la collapsologie, vous voyez, on a « collapse »,« effondrement », qui vient de l'anglais, « logos », »,« une étude de », donc ces deux auteurs, Servigne et Chapelle, le définissent comme l'étude des effondrements passés, présents et futurs des civilisations, y compris de la nôtre, qu'ils appellent une civilisation thermo-industrielle, et surtout, c'est ça qui va être intéressant, des moyens de s'y préparer. Ceci étant posé, moi, en tant qu'individu qui m'intéresse à ces questions-là d'un point de vue philosophique, puisque c'est ma formation, et aussi en tant que membre d'un collectif où on devait s'intéresser à cette question-là, j'ai eu un certain scrupule, en fait, à m'attaquer à la collapsologie. Pourquoi ? Parce qu'à mes yeux, c'est, en tout cas à bien des égards, un écran de fumée, tout ça. Et peut-être que la position la plus honnête vis-à-vis de soi-même, face à un écran de fumée, comme disait Nietzsche, quoi, c'est répondre par le mépris. Bon, c'est ça la première chose. La deuxième chose, c'est que ce discours, il est en général porté par des gens qui sont tout à fait bien intentionnés. Ce sont les mêmes qui, pendant l'épisode du confinement, ont exhorté les Français à l'entraide, à préférer l'entraide général à l'Union nationale proclamée par Macron. Donc, comment s'y opposer ? Alors, il y aurait bien une raison, c'est quand Le Monde, c'est quand France Culture, France Inter, Le Monde, le journal officiel de tous les pouvoirs, comme disait l'international situationniste, font des tribunes à des gens comme Pablo Servigne. Alors, le problème, c'est que pour écrire un livre qui se tienne un peu, ou une revue qui a un peu de cohérence, je ne suis pas certain que décrier une promotion médiatique, ce soit suffisant. Donc, il y avait bien d'autres raisons. Alors, le bas, je dirais qu'il blesse ailleurs. Sur deux points. Donc, ce discours sur l'effondrement, si vous voulez, on peut éliminer le terme collapsologie, on dit le discours effondriste, tout va s'effondrer. Le problème, c'est qu'il se présente comme une écologie sérieuse. C'est-à-dire que là, on quitte un petit peu quand même le terrain par exemple, du cinéma à grand spectacle, de l'Armageddon, etc., et on entre sur le terrain d'une écologie qui se prétend sérieuse. Pourquoi ? Parce qu'elle se prétend scientifique, dans ses fondements. Le premier ouvrage de la collapsologie en France, c'est « Comment tout peut s'effondrer » par Pablo Servigne et Raphaël Stevens, qui est une synthèse, quand même habilement réalisée, de données scientifiques, de tableaux, d'analyses de courbes, pics pétroliers, etc., etc., qui montrent que nous serions dans une situation qu'ils appellent, en empruntant un petit peu de jargon, « novlangue », le predicament, c'est-à-dire une situation où tout est tellement verrouillé que nous fonçons, telle une voiture qui n'aurait plus de frein, contre le mur. Donc eux, c'est à ça qu'ils arrivaient, à l'aide de la science. Donc écologie sérieuse, une écologie qui pose des questions, selon Servigne. Donc là, je me réfère à l'article qu'il a fait dans cette revue, c'est à peu près, on va dire, sa dernière position un petit peu étoffée. Et donc lui, il dit que finalement, cette collapsologie pose des questions que l'environnementalisme refuse, quant à lui, d'affronter. Il dit, je cite, « La collapsologie parle ouvertement des aspects difficiles de ce qui nous arrive, là où l'écologie classique reste étouffée par ses euphémismes. » Alors, ça veut dire que quand vous vivez dans un monde dont vous avez compris qu'il est sans avenir, dit Servigne, alors, d'abord, avant de réfléchir, avant de passer à une analyse causale, il faut d'abord encaisser la nouvelle. Et donc, dans la collapsologie, vous allez avoir tout un aspect de prise en charge, quasiment thérapeutique, j'essaierai d'y revenir, des émotions négatives qui s'emparent de n'importe quel être humain quand il a pris conscience qu'il lèguera à ses descendants une terre complètement bousillée. D'où l'idée d'affronter des passions, qui sont des passions négatives, l'angoisse, un sentiment de déréliction, d'abandon total, ce que ne font pas, selon les collapsologues, ce que ne fait pas l'écologie classique. Donc une écologie qui se prétend sérieuse, et qui a pour elle aussi, et quand on fait une petite enquête, on voit très bien qu'elle commence à avoir cette écologie avec elle, des instituts de recherche, des crédits, des cliniques même, et des observatoires qui existent pour soigner les maux de la Terre, MAUX. Les maux liés à la perte de la Terre, vous savez pas, ou peut-être pas, qu'une notion comme ça champignonne évidemment, avec ce genre de discours. Donc une notion est sortie qui s'appelle la solastalgie. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'étiquette clinique qu'on va mettre sur le sentiment de quelqu'un qui se trouve face à la destruction d'un lieu qui lui est cher. Ce n'est pas la nostalgie, c'est le sentiment de quelque chose qui nous est cher, le lieu où l'on habite, où l'on a des accointances, part en fumée sous l'effet, alors je dis ça très généralement, de la démesure, de l'esprit de démesure de l'homme. Et on en conçoit des affects qui sont des affects dépressifs. Il y a des observatoires qui sont mis en place maintenant pour prendre en charge les gens qui souffrent de solastalgie. Et puis on peut parler aussi de l'ensemble des noms prestigieux avec qui la collapsologie est en débat. En France, Edgar Morin, quelqu'un comme Dupuis, Jean-Pierre Dupuis, le penseur du catastrophisme éclairé, ou, excusez du peu, le penseur le plus lu internationalement, Monsieur Bruno Latour. Et aux États-Unis, vous trouvez des gens qui s'y intéressent, qui sont, on va dire, des altermondialistes, quelqu'un donc comme Naomi Klein. Cette tendance-là, qui ne s'appelle pas collapsologie en fait aux États-Unis, mais qui reçoit aussi un très bon accueil critique. On voit des philosophes qui parlent par exemple de « learning how to die in the Anthropocene ». Ce qui nous reste à faire à l'heure actuelle, c'est d'apprendre à mourir. Donc question hautement philosophique, parce que ça nous renvoie à Platon, à Montaigne, etc. Il se retrouve en tête des ventes de livres, en tête des articles les plus lus dans le New Yorker, dans le New York Times, etc. Voilà. La deuxième chose, et ça je pense que c'est d'emblée plus intéressant, c'est que cette collapsologie, elle semble avoir prise quand même sur la réalité politique. Alors il me semble qu'elle forme quand même pas mal de consciences, de jeunes consciences, dans l'époque actuelle, des consciences, personnes de 20, 25, 30 ans, qui se retrouvent face à ce futur sans avenir dont je parlais au début, et qui se disent que maintenant il faut entrer dans l'action. Songez par exemple à Extinction Rebellion, c'est pas le profil type, mais il y a quand même pas mal de choses de cet ordre-là. Donc à mon avis, il me semble que c'est un faux procès de dire qu'elle conduit la collapsologie à l'inaction et à la fatalité. On trouve beaucoup ça dans les colonnes par exemple de journaux anarchistes comme le Monde Libertaire, ce serait de dire que puisque tout est foutu, alors c'est la résignation. Mais pas du tout, en réalité. Sur le terrain, on se rend compte qu'il y a une floraison, un foisonnement d'activités qui sont presque tous azimuts. Et il y a une prise politique. Alors, pour illustrer ça, vraiment avec un cas concret, dans Réfraction, on a fait un petit entretien avec un jeune membre des Gilets jaunes qui avait suivi à Montpellier, entre avril et juin 2018, les manifestations du samedi. Un documentaire en a été fait par quelqu'un qui s'appelle René Garraud, et dans ce documentaire, il y avait un des Gilets jaunes qui se disait collapsologue, qui témoignait vraiment de son implication dans le mouvement de la collapsologie. Et alors, la collègue qui a mené l'entretien lui pose à un moment la question. Donc je lui donne la question et puis la réponse. Il est reproché à la collapsologie de ne pas être politique. Réponse : pas politique, c'est-à-dire de ne pas être partisane, de ne pas prendre de risques par rapport au capitalisme. Pour moi, la collapsologie est éminemment politique. Pablo, donc entre parenthèses Servigne, Pablo est sur le constat des déclins. La collapsologie décrit des logiques, des mécanismes à l'œuvre. Tout cela implique, pour moi, forcément une réaction politique anticapitaliste, écologiste. C'est une mise en résonance des impasses actuelles d'un autre niveau que la critique dans les années 1960-1970. Donc la fin m'intéresse particulièrement, la fin de la réponse. Et bien à partir de là, il y a de quoi faire. Si des consciences qui se politisent actuellement considèrent que la collapsologie c'est plus qu'une porte d'entrée, c'est un discours vraiment politique de part en part, qui est à un autre niveau que ce qui a été fait dans les années 60-70, donc forcément ça nous pousse à enquêter sur ce qui a été fait dans les années 60-70, quand, comme moi, on n'a pas eu la chance d'être né au bon moment, pour voir, pour comparer, quoi. Donc, le point de départ et de la revue et du livre, c'était ça. On est face à un discours, en fait, qui, mine de rien, politise. Il s'adresse aux gens dans une situation qui est une situation d'urgence, et il s'adresse aux premiers concernés. Ça, c'est très intéressant aussi. Les premiers concernés, c'est quoi? C'est la génération qui sait ou qui a intégré le fait qu'elle va prendre la vague de dérèglement tous azimuts dans la tête. Et donc, à mon avis, c'est suffisamment problématique, ça, pour qu'on s'y intéresse. Pour ma part, moi, je pense pas que la collapsologie soit d'un autre niveau que ce qui se passait dans les années 60-70. En fait, ma thèse, c'est évidemment l'inverse. C'est qu'elle participe d'une culture qui est la culture actuelle. C'est une culture de l'oubli qui efface consciemment les traces de ce que l'écologie a donné de plus radical dans les années 60 et 70 et qui, à ce titre, fait partie intégrante du spectacle, c'est-à-dire d'un monde dans lequel les conditions de représentation de la réalité sont complètement inversées. Donc moi, j'ai une formule au début de mon petit essai qui reprend un détournement qu'avait fait Debord, avec la collapsologie qui nous parle d'écologie et qui dresse des constats qui, en eux-mêmes, sont valides, c'est le vrai qui est un moment du faux. C'est la petite part de vérité qui est un moment du faux dans le spectacle. Alors, c'est bien de le dire, il faut essayer de le démontrer. Et c'est pas évident. Et c'est pas évident, pourquoi? Parce qu'il y a déjà cette idée que les collapsologues sont des gens assez sympathiques, et surtout qu'ils ressemblent un petit peu à une paroi sur laquelle il n'y a pas d'aspérité réelle. Et il faut bien la gravir, cette paroi, pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, mais c'est difficile, c'est assez glissant. Alors, c'est pour ça que moi, dans le livre, je fais une comparaison, je compare la collapsologie au lotophage. Alors, ça nous ramène à l'Odyssée. C'est sur le chemin du retour vers le foyer natal. Alors moi, le foyer natal, c'est le foyer de l'écologie, quoi. Pour faire simple, moi, le foyer natal, pour moi, c'est la critique des nuisances, quoi. Voilà. Et bien, sur ce chemin-là, les collapsologues sont comme les lotophages. Souvenez que les lotophages, ils mangent un aliment doux, sucré, alors que c'est pas forcément du lotus, mais en tout cas, quelque chose qui fait rester les compagnons d'Ulysse avec eux, et qui les détourne du chemin du retour, et qui les détourne sous un aspect qui est bienveillant. Parce que, évidemment, dans l'Odyssée, il y a aussi plein de géants, il y a aussi des créatures qui veulent vraiment du mal à Ulysse. Alors si vous voulez, ça va être moi je les appellerais les dévorateurs, ça c'est la logique capitaliste, quoi. Mais il y a les lotophages bienveillants. Ce que je proposerais, moi, c'est d'aller travailler sur les deux fronts. Évidemment, il s'agit toujours d'avoir une critique frontale, ce que je reprends en Selmiap, c'est-à-dire la logique autophage du capital, ça oui, évidemment. Mais sans se laisser happer par une forme de narcose, quoi. C'est-à-dire l'idée que toutes ces distinctions conceptuelles-là sont du temps perdu, que l'urgence est tellement prégnante qu'il faut se retrousser les manches et partir, tête baissée, dans la pratique, dans l'activité. Donc c'est ça qui m'intéresse, et en fait c'est très difficile, parce que ça veut dire que vous devez penser une écologie qui n'est pas soumise à un compte à rebours. La collapsologie, c'est l'écologie avec le compte à rebours. Il y a un des auteurs, José Ardilio, dans la revue Réfraction, qui fait un article là-dessus. Donc si on se donne le temps de penser, on arrive à peu près à ce qu'il dit, ce José Ardilio, qui est un auteur, anti-industriel. Il dit ceci. Sur la collapsologie, sa pédagogie de la catastrophe ne peut qu'aboutir à une infantilisation des lecteurs et du public intéressé, tandis que sa légèreté politique l'éloigne d'une véritable compréhension des problèmes. Alors j'essaierai de vous donner quelques indications de cette légèreté politique. Étant privée d'une perspective historique, elle se situe dans un présent dépourvu de caractère notable. Son unique référence fiable est la fin du monde. Et donc il prend position, donc je ne trouve pas intéressante une écologie en attente d'un futur promis à l'éclatement, une écologie qui prophétise la fin de tout, et en définitive, peine à reconnaître que cette société devrait être questionnée même si la menace d'un collapse disparaissait de son horizon. Donc ça, c'est un très très grand point de la critique qu'on fait dans le numéro et de ce que j'essaie de développer dans le livre. C'est-à-dire que si vous avez une critique vraiment écologiste, ce que vous devez faire, si vous voulez vous honorer de ce nom-là, c'est critiquer le désastre déjà en cours et remonter à la logique qui l'a produit. Et non pas envisager un point de basculement, et puis ensuite une sorte de renaissance, par miracle comme ça, par des jardins entretenus en permaculture, et puis miraculeusement un surgissement de l'entraide. Ça, si vous voulez voir ça de manière assez caricaturale, vous lisez ou vous écoutez ce que dit l'ancien ministre de Lionel Jospin, Yves Cauchet. Donc dans un livre qui s'appelle « Devant l'effondrement », lui, il est allé jusqu'à dater très précisément, une sorte de Nostradamus vert, quoi, les phases par lesquelles nous allons passer, nous, toujours cet englobant, vous voyez, indéterminé. Et alors, lors de la crise du coronavirus, ses postures étaient presque malsaines, quoi. C'est comme s'il se frottait les mains quand même en se disant « mais c'est venu bien plus tôt que ce qu'on pensait ». Alors, une fois qu'on a ce cadre, ce que je vais faire, c'est pas rentrer dans tous les détails, si vous voulez, on pourra élaborer ça dans la discussion, c'est que si on se met quand même vraiment à penser la collapsologie de façon critique, on peut déterminer quelques points saillants. Bon, j'en retiendrai 5, mais il y en a quelques autres aussi dans le livre et dans la revue. Donc, là où ça me semble un discours critiquable et sur lequel on peut en tout cas intervenir, c'est qu'il fait partie, donc ça je voudrais vraiment le répéter, d'un oubli de l'histoire. C'est pour ça que le livre ça s'appelle « La collapsologie ou l'écologie mutilée ». Bon, mutilée, c'est un petit clin d'œil à Adorno, mais il y a aussi cette idée qu'il y a une écologie entière, quoi, pleine et entière. On a une tradition, on peut se nommer, il faut juste qu'on sache d'où on vient. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'écologie? Pour faire simple, c'est les vivants, ceux qui sont nés contre le monde machine. Contre le monde machine, c'est-à-dire contre la puissance technocratique qui se met en place depuis, on pourrait faire un petit point de départ, ça peut être discuté, depuis, on va dire, Saint-Simon, le comte de Saint-Simon, début du XIXe siècle, et puis la branche technocratique. Donc il y a un oubli complet de cette histoire-là, et on voit finalement des gens, jeunes ou moins jeunes, s'emparer d'un legs et le dilapider en quelque sorte. Et retirer tout tranchant à des thèses, à des auteurs qui étaient très importants dans ces années 60-70 et qui sont complètement dévitalisés. Dans le livre, on n'a pas dans la revue, je travaille un petit peu sur ce qui est devenu l'idée de quelqu'un qui s'appelait Theodore Rozak dans les années 1970, qui était le théoricien américain de la contre-culture. La devise de la contre-culture, c'était guérir l'esprit, restaurer la terre. Donc il y avait déjà ce lien très fort d'interdépendance entre l'individu et puis le milieu. Mais Rozak, qui était quelqu'un qui ouvrait aussi son champ d'analyse vers les romantiques, les poètes romantiques, ça pouvait être Byron, ça pouvait être Goethe, ça pouvait être Wordsworth, il ouvrait aussi vers les spiritualités orientales, mais avec un but, c'était d'attaquer la structure technocratique de la société. Eh bien, si vous prenez l'une des grandes inspiratrices de la collapsologie, puis en faisant une petite enquête, c'est très intéressant de voir d'où elle vient d'une communauté qui s'appelle la communauté Findhorn, en Écosse, qui est le berceau, en fait, de ce qu'on appelait le New Age. Le New Age qui, lui-même, s'était enraciné dans les mouvements qu'on appelle les mouvements soucoupistes ou d'ufologie. C'est-à-dire qu'il y aurait une fin du monde, et c'est les extraterrestres qui viendraient racheter certains individus élus. Bon, la fin du monde n'a pas eu lieu, et ça s'est recyclé en New Age, quoi. Cette personne-là, qui s'appelle Joanna Macy, elle fait de l'écologie, de l'éco-psychologie. Mais on a perdu complètement ce qu'il y avait chez Rozak, cette idée qu'il peut y avoir un cheminement intérieur, un travail éthique sur soi-même, mais que ça a quand même vocation à nous sortir un peu de notre rôle à l'intérieur de la structure capitaliste et industrielle. Là, c'est pas du tout ça. L'éco-psychologie pratique, c'est une manière de s'adapter et de soigner, alors c'est le mot, vous savez, à la mode, de soigner sa résilience. Alors la résilience, en fait, c'est quoi? C'est vous prenez un arc, quand il est détendu, il retrouve sa résilience, c'est la manière dont il va retrouver son assiette naturelle après une tension. Donc, oubli de l'histoire, parce que dévitalisation de pas mal d'œuvres des années 60-70, voire occultation totale. Quand Bruno Latour, pendant le coronavirus, fait un papier... Alors, pourquoi Bruno Latour? Parce que lui, il n'est pas collapsologue, mais il inspire énormément les collapsologues avec son idée d'atterrir, de revenir sur Terre. Mais quand il fait un papier au printemps sur le coronavirus, il dit maintenant, c'est plus simplement la distribution de la production qu'il faut questionner, c'est la production elle-même. Il faudrait que chacun puisse sélectionner, choisir, par une sorte de questionnaire d'autodiagnostic. Entre parenthèses, Éric Piolle, le nouveau maire vert de Grenoble, va se servir du questionnaire de Latour pour le proposer à ses administrés. Ce questionnaire d'autodiagnostic, pourquoi faire? pour faire l'inventaire en quelque sorte de ce qu'on peut garder dans la production actuelle, de ce qui est définitivement nocif et que la situation virale a révélé. On sait très bien, sauf que vous prenez 1934, Simone Veil, réflexion sur les causes de l'oppression sociale, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire l'inventaire de ce qui permet à l'individu de développer le meilleur de ses capacités dans la société capitaliste et industrielle, et de ce qui, au contraire, va le river à la puissance du collectif et va l'étouffer, quoi. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose de très agaçant, en réalité, quand on aime bien les idées et puis les filiations historiques, de voir des gens qui pavanent et qui prétendent avoir découvert la Lune. Alors, pourquoi ils font ça ? Il y a quand même cette idée d'occultation qui est très claire. Je le dis avec les termes de quelqu'un qui est assez médiatique aussi, Aurélien Barreau, astrophysicien. C'est extrait d'une émission avec Frédéric Taddeï qui était passé l'année dernière. Si on se met à parler de capitalisme, disait-il, on perd d'emblée 80% des gens. Donc, cet oubli de l'histoire n'est pas innocent, il est aussi d'une certaine façon concerté, parce que le jeu médiatique implique aussi une forme de captation, consciente ou inconsciente en tout cas, de la masse, quoi. Plus grand auditoire possible. Donc, oubli de l'histoire, dilapidation d'un lac, ça c'est le premier point. Deuxième point saillant à mon avis, c'est tout ce qui tourne autour de ces nouvelles mythologies. Les collapsologues parlent énormément de récits. Il faudrait inventer de nouveaux récits. Sans cesse, ils parlent d'histoire, de récits, de fiction. Donc vous avez le terrestre, et vous avez aussi un récit qui est très important, qui est le récit de Gaïa. Donc, pour ceux qui voudraient une traduction très grand public de Gaïa, songez au film, au blockbuster américain Avatar. Dans Avatar, les scientifiques sont derrière leurs ordinateurs, et ils luttent âprement contre les militaires et les financiers. Et qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? Ils cherchent à montrer en quoi la nature, dans la nature, tout communique avec des réseaux d'influence et de réciprocité énergétique. Ben Gaïa, c'est exactement ça. Et donc, ça vient de cet auteur qui s'appelle James Lovelock, qui est centenaire depuis l'année dernière. Et c'est intéressant parce que Bruno Latour lui-même reprend pas mal de Lovelock. Il a imposé quand même cette idée de Gaïa. Alors, c'est une belle idée. Pour faire simple, Gaïa n'est pas la nature. Pourquoi ? La nature, je suis face à elle, je suis à distance d'elle. Et donc, en tant qu'humain, par ma représentation, par ma conscience, il y a nécessairement une posture de domination et de réduction de la nature à des instruments et des moyens en ma possession. Gaïa, par contre, c'est le point de vue immersif, en immersion. Nous sommes des éléments de Gaïa, et donc, à partir du moment, pour les collapsologues, où nous changeons déjà notre conscience, notre représentation, nous commençons à nous mettre en mouvement pour changer le monde. Il y a cette idée. Donc c'est pour ça que les récits, ils abondent vraiment. Alors évidemment, ils rappellent un petit peu ces auteurs qui étaient moqués par Marx et Engels dans la préface de l'idéologie allemande, ces auteurs qui voulaient se débarrasser de l'idée de pesanteur pour s'éviter la noyade, quoi. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, si on va fouiller, donc là, on ne l'a pas fait dans Réfraction, moi je le fais dans le livre, bon, j'essaye de voir un petit peu où ça nous mène, ces récits sur le retour au terrestre, etc. Avec une analyse de ce que fait Bruno Latour, de ce que dit Bruno Latour. C'est un théoricien du terrestre, mais le terrestre, pour lui, c'est Gaïa. Et en fait, Gaïa, si vous revenez au départ chez Lovelock, c'est quoi ? C'est un système cybernétique. C'est quoi la cybernétique ? Kubernetes, c'est le pilote qui gouverne un système dans lequel les parties se répondent. Et ce pilote, il est automatisé. Donc un système cybernétique basique, par exemple, c'est un four. Donc il fonctionne par thermostat. D'accord ? Autorégulation. Chez Lovelock, Gaïa, c'est quoi ? C'est un système cybernétique. Il le dit, c'est absolument clair dès 1973. Et nous, en fait, nous sommes une partie de Gaïa qui a une grande responsabilité puisque c'est en grande partie notre action qui dérégule l'équilibre global. Mais le problème, c'est que en fait, cet équilibre global, il comprend l'atmosphère, il comprend les êtres vivants, mais il comprend aussi, chez Lovelock et chez son disciple Latour, les machines. Je dis bien les machines et les systèmes technologiques, non pas simplement les outils. Et en fait, ce que promeut Latour, si on gratte un petit peu, c'est une régulation de la diffusion et de l'emprise technologique de l'humain sur son milieu. Alors ça, on peut le voir, parce qu'en fait, derrière Latour, il y a une idée qui appartient aux jésuites et qui nous renvoie à un auteur qui était très célèbre dans les années 50, qui était Pierre Teilhard de Chardin, qui est le théoricien de la noosphère, c'est-à-dire de cette symbiose globale des esprits vers laquelle l'évolution humaine devait mener. C'est-à-dire non pas la fourmilière guidée par l'instinct, mais la fourmilière spiritualisée. Et on trouve dans les récits des collapsologues, dans ces nouveaux récits, de très fortes résonances. Pourquoi ? Parce qu'il y a une insistance permanente sur l'inclusion, le grand tout, l'inclusion dans le grand tout, la fusion, qui va nous permettre notamment de soigner ces émotions dont je parlais. Au départ, ces émotions négatives, quoi. Donc ça, c'est très bien sur la question de la fusion, mais en fait, Teilhard de Chardin, je vous rappelle aussi que c'était celui qui s'était extasié devant l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima, parce qu'il avait dit que c'était le divin qui enfin se répandait dans la matière. Donc moi, j'essaye après de jouer, si vous voulez, pour la perspective écologiste, la perspective des vivants, une incarnation contre une autre. Parce que c'est pas le tout de dire on est pour l'incarnation. Parce qu'on peut s'incarner de deux manières. Alors là, je ne vais pas aller vers de la théologie, mais vous avez en gros l'incarnation catholique, la tour Teilhard, c'est le spirituel qui descend dans la matière, et qui l'englobe. Et mais vous avez une forme d'incarnation qui est une manière de réfléchir à l'incarnation qui est assez minoritaire, ou qui est pas orthodoxe, quoi. Et qu'on va retrouver chez quelqu'un qui est protestant comme Ellul, Jacques Ellul, ou chez quelqu'un qui est agnostique comme Bernard Charbonneau. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire que l'incarnation, c'est un esprit fait chair. Ce qui n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas l'esprit qui enserre la matière, c'est l'esprit qui sait qu'il est pris dans un corps, et que ce corps, il a une vie sensible, et que tout ce qui entrave cette vie sensible est une atteinte aussi à l'esprit. Donc ça, c'est bien différent. Donc moi, je joue évidemment une incarnation contre une autre. Et ça, c'est pas très clair, évidemment, tant qu'on en reste à dire que la tour, bah, c'est le penseur le plus lu, donc il faut prendre en compte ce qu'il dit sans aller vraiment chercher, d'autant plus avec les relais institutionnels qu'il a, etc. Donc, premier point, oubli de l'histoire. Deuxième point, les nouvelles mythologies, les nouveaux récits. Le troisième point, qui me semble un point saillant pour critiquer la collapsologie, bah, c'est l'idée qu'en fait, c'est un discours qui n'a pas de charpente. C'est un discours, moi j'appelle ça un discours amibe, d'ailleurs, avec des mots qui sont flottants, quoi. Là, ils attrapent tout. Et alors, c'est très intéressant si vous voulez créer un mouvement de masse. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune charpente. Donc, par exemple, c'est pas du tout clair. La différence n'est pas du tout claire entre ce que serait un effondrement de l'écosystème, par exemple, et un effondrement du capitalisme. Parce que on voit très bien, on sent très bien que le premier effondrement, l'effondrement de l'écosystème, voyons, même moi, là, j'emprunte un vocabulaire technicien, quoi. En fait, c'est l'effondrement du milieu vital. L'effondrement de l'écosystème, il peut très bien faciliter le rebond du capitalisme. Le permafrost est en train de geler, bah chouette, voilà de nouveaux gisements, voilà de nouvelles terres à exploiter. On a un effondrement, on a des nuisances en termes de qualité sanitaire due à l'élevage industriel. Qu'à cela ne tienne, on peut faire de la viande in vitro. Alors, ce flottement, il est permanent. Et en fait, aucun des collapsologues, moi que j'ai lu, peut-être un seul, qui s'appelle Renaud Duterme, qui est belge, qui est un géographe, qui lui a remis dans l'analyse la question des inégalités, des rapports de classe. Mais sinon, pratiquement aucun ne s'intéresse à ces questions-là de manière fine et nuancée. Il n'y a pas la charpente théorique derrière pour le faire. Ça veut dire que là aussi, il y a une occultation. La collapsologie, elle fait l'impasse sur une théorie de l'effondrement du capitalisme par sa limite interne. Elle fait l'impasse tout aussi bien sur l'idée que une catastrophe sociale et sociétale qui est liée au technocapitalisme, qui plonge le vivant sensible dans une sorte de barbarie. Là, on pourrait faire référence à un auteur, moi, qui me semble compatible ou proche de la critique de la valeur, du moins une certaine période, qui s'appelle Michel Henry, qui est un philosophe français qui avait fait une relecture de Marx, que je vous recommande, et qui développe des théories qui sont étonnamment proches de Kurz dans les années 90-91. Notamment, il fait une théorie de la catastrophe du capitalisme au communisme, qui ressemble vraiment à ce que fait Kurz au même moment. Et on connaît d'autant moins un héritage qui m'est cher, c'est la critique de l'abîme dans lequel entraînent les nuisances, qui a été faite par Jaime Semprún, et puis ensuite toute l'encyclopédie des nuisances, déjà à partir de 1984. Donc, quand on n'a pas de charpente, on séduit, mais on est déficient, on est défaillant en termes théoriques, on est défaillant en termes politiques, évidemment. Et donc, on préférera à tout ça une critique morale de la société de compétition au nom de l'entraide. Là aussi, j'en viens à un quatrième point. C'est un discours qui, dans sa structure, en fait, qui est très relâché, est pratiquement publicitaire. L'entraide, c'est quoi ? C'est un concept qui a été forgé par un anarchiste russe qui s'appelait Kropotkin. L'entraide chez Kropotkin, c'est une notion qui est une puissance politique et qui n'est pas limitée à simplement l'idée que les animaux s'entraident et qu'il y a de l'entraide entre les animaux d'une même espèce ou qu'il y a une symbiose. C'était une notion politique qui visait à produire une histoire, je dirais, par en bas, montrer comment les communautés se sont toujours organisées contre les contextes qui défaisaient l'entraide et qui faisaient ressortir de la hiérarchie, permettaient de la hiérarchie. L'entraide, ça devient un slogan quand les collapsologues le travaillent, tout simplement parce que on est dans une société de compétition, on ne pourra pas arriver à s'en sortir sans entraide, tout simplement parce que quand la société est fait effondrer, vous avez le choix entre Mad Max ou pratiquer l'entraide. Donc pratiquons l'entraide. Yves Cochet, lui aussi, il parle de l'entraide. Comme par miracle, après une phase dans laquelle on va presque tous s'entretuer, je ne caricature pas, c'est vraiment pratiquement ce que vous avez chez Yves Cochet, l'entraide arrivera par une sorte de miracle, parce que les gens vont se rendre compte qu'ils sont des miroirs les uns pour les autres et qu'ils ne voudraient pas être à la place des autres quand on leur fait du mal. Donc tout ça va s'équilibrer et on va pouvoir ensuite restaurer des communautés un petit peu solidaires. Donc si vous plongez dans tout ce passé anarchiste, l'entraide, ce n'est pas exactement la présentation qu'en font les collapsologues Pablo Servigne et Gauthier Chapelle dans un livre qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». Il collecte plein d'expériences qui montrent comment l'entraide se produit dans tous les contextes possibles, y compris dans les entreprises, avec de nouvelles techniques qui sont les techniques du management bienveillant et du mimétisme animal, ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est-à-dire étudier comment les animaux s'entraident, tirer-en des leçons pour mieux gérer vos ressources humaines. Ils en tirent ça. Il y a une référence à Kropotkin, une petite histoire de ce qu'a fait Kropotkin, mais jamais, en fait, on ne va politiser la question, mais pour la raison que je vous ai rappelée tout à l'heure, on va perdre 80% des gens sinon. Et ensuite, ce discours est publicitaire aussi parce qu'il participe de toute une dérive mercantile autour de la prise en charge thérapeutique. Et il embrasse ce qu'on pourrait appeler des fantasmes de fusion et des fantasmes narcissiques, au sens vraiment d'un auteur qui s'appelait Christopher Lash, qui est un historien critique social américain. Et donc, chez Lash, vous voyez, narcisse, c'est pas simplement l'égoïste qui se pavane et qui jouit de sa propre image, c'est surtout celui qui prend son reflet pour lui-même, c'est-à-dire qui est incapable de faire la distinction entre le moi et le non-moi, et qui a besoin de s'absorber en quelque sorte dans une totalité. Et bien ça, vous le trouvez dans le discours, mais vous le trouvez aussi très concrètement dans des pratiques sur lesquelles les écosocialistes, on en parlait tout à l'heure, ont beaucoup insisté. Moi, ça ne m'intéresse pas trop d'insister là-dessus. Je le note en passant parce qu'il faut le savoir. Des pratiques mercantiles de stage, de reconquête, par exemple, du masculin profond, stage de reconquête du féminin profond, stage d'apprentissage de la reconnexion avec la nature, avec des sorcières, payé 260 euros. Donc il y a tout cet aspect-là quand même qu'il faut souligner. Un éco-socialiste comme Tanuro, lui, il est tombé dessus à bras raccourcis, il a fait 15 pages dessus. Je pense que c'est pas absolument nécessaire, quoi. Et donc le dernier point, c'est que les collapsologues, leur succès aussi, il est lié à cet appel aux sentiments, ce travail sur les sentiments. Et donc là, pour quelqu'un qui a fait un peu de philosophie, qui manie un peu ce qu'on appelle la dialectique, quoi, le fait de saisir le devenir dans ses contradictions, et même l'être humain dans ses contradictions, il y a quand même des représentations très très simplistes, très très schématiques. Par exemple, l'une d'entre elles, c'est consiste à dire que la raison est froide, par essence, donc c'est la raison qui fait les constats. Mais ensuite, les émotions, elles sont chaudes, et c'est à elles qu'il faut s'adresser pour guider les gens vers un dépassement de la dépression qui va les frapper une fois que les constats lucides auront été amenés. Mais en réalité, pour quelqu'un qui aurait lu Adorno, cette dichotomie, cette manière de compartimenter l'être humain entre une raison froide et puis une sphère des émotions chaudes, elle est d'abord fausse, mais surtout, elle n'est qu'un miroir, qu'une réfraction de la structure même de la division du travail, avec le sujet bourgeois rationnel qui compense, qui surcompense ensuite son enfermement dans la rationalité, dans la logique froide, par des élans qui peuvent être des élans vers l'occulte, la superstition. Et en réalité, plus la logique se veut scientifique, plus les élans sont disproportionnés et délirants. Donc là, je vous renvoie vers un ensemble de fragments qui s'appelle « Thèse sur l'occultisme » de Adorno, dans un livre qui s'appelle « Les Minima Moralia ». Alors ça, effectivement, je fais un petit peu un sort à cette dimension-là. Pourquoi ? Parce que ça justifie quand même cette idée d'une prise du collectif, quoi, et de l'effet de masse. Et en fait, l'écologie, moi, à laquelle je suis sensible et qui fait partie de ce passé oublié, c'est l'écologie qui appelle à la réflexion d'abord par le retrait. La réflexion solitaire et qui dit c'est à l'individu de se retirer du mal. L'intelligence, c'est de se retirer du mal. Voyez Simone Veil, voyez même dans un sens, on peut en discuter, Orwell disait que c'était presque du fanatisme spirituel, mais voyez Tolstoï par exemple, des auteurs comme ça. Donc moi, ce qui me fait peur, en fait, dans la collapsologie. Ça peut être une peur raisonnée, mais c'est l'idée que sous l'aspect de ce qu'on appelle le care, le maternage, il y a en fait une prise en charge et une organisation totale, en fait, qui part du principe que les gens ont des angoisses qu'il faut calmer absolument pour entrer dans une ère qui est une ère de tumulte, de tempête, etc. Donc, en conclure, c'est un peu la conclusion que j'ai faite dans le livre, que certains ont donné dans la revue, c'est que la collapsologie, elle cherche à faire masse. Mais moi, je pense qu'une écologie qui ne serait pas mutilée, elle ne chercherait pas à faire masse. Et elle n'embrasserait pas le camp de la modélisation du réel, voire Club de Rome. D'ailleurs, c'est intéressant de voir les membres du Club de Rome, c'était beaucoup de cybernéticiens. Donc c'est déjà de l'écologie technocratique. Et c'est souvent la référence privilégiée quand même de ce courant, la collapsologie. Donc une écologie qui n'embrasse pas le camp de la modélisation du réel, mais celui de la réalité sensible. Le deuxième point, moi, c'est de se tenir droit, un peu à la manière de Camus, dans ce que j'appellerais, moi, l'antipolitique. Alors là, je vous citerai juste un dernier auteur, qui m'est cher, donc qui était un anarchiste, prophète du socialisme, il s'appelait Gustav Landauer, ce qu'il appelait, lui, dans l'appel au socialisme, 1911, Landauer qui était sauvagement, d'ailleurs, assassiné par la gauche allemande à l'époque. Il appelait ça choisir la voie de l'individualisme le plus individuel, évidemment pas l'individualisme libéral, et la renaissance des plus petites collectivités. Autrement dit, si vous voulez cultiver cette idée que d'ores et déjà, et non pas dans un futur incertain, il n'y a, je le cite, de libération que pour ceux qui se mettent intérieurement et extérieurement en état de sortir du capitalisme et qui cessent de jouer un rôle et commencent à être des êtres humains. Si on s'en tenait là, déjà, on pourrait se débarrasser, à mon avis, de la mystification de la collapsologie. Et j'ai terminé.
Vous écoutez Radio Zazine, on vient d'entendre Renaud Garcia qui nous présentait son ouvrage paru en octobre 2020, La collapsologie ou l'écologie mutilée, c'est paru aux éditions L'Échappée, un ouvrage de 160 pages environ pour 14 €, qui est écrit par quelqu'un qui a une formation de philosophe, mais qui est un ouvrage très accessible au commun des mortels, puisque Renaud Garcia prend le soin d'expliquer vraiment les arguments qu'il avance contre la collapsologie d'une manière assez détaillée. Renaud Garcia avait déjà publié aux éditions L'Échappée également Le désert de la critique en 2015 et Le sens des limites en 2018. Et je crois que sur Racine de Moisin, on avait fait des émissions où il présentait ses ouvrages. Il fait référence aussi au dossier qu'il a coordonné dans la revue Réfraction, revue de recherche et d'expression anarchiste. C'est le numéro 44 paru au printemps 2020. Voilà, le titre général, c'est Avis de tempête, c'est la fin des beaux jours. Et là-dedans, donc, il y a différents articles, notamment l'interview aussi avec les gilets jaunes, avec le jeune gilet jaune de Montpellier auquel Renaud Garcia faisait référence. Et moi-même, j'ai donné un petit article là-dedans qui a une version abrégée d'un texte un peu plus long. Ce texte s'intitule « La collapsologie, start-up de la picolapse », c'est paru en fin 2019, et le sous-titre c'est « L'avenir était quand même mieux avant la fin du monde ». Petite remarque ironique, puisque là-dedans je dis en gros que Pablo Servigne recycle d'une certaine manière l'idéologie progressiste. Cette fois-ci, ce n'est plus l'avenir radieux que nous promettait l'industrie qui est l'horizon, c'est l'annonce de l'effondrement qui devient d'une certaine manière de rédemption, dans le sens où la catastrophe va nous obliger à devenir vertueux écologiquement et socialement, et du coup ça recycle un peu tous les poncifs progressistes, et surtout il y a un oubli, comme le dit Renaud Garcia, un oubli total de l'histoire qui nous a mené à cet effondrement. Et Renaud Garcia en parle un petit peu, tous les trucs de développement personnel que promeut Servigne servent à occulter les causes politiques de l'effondrement, et surtout les solutions que Servigne prône, surtout dans son dernier ouvrage où il a plus détaillé, c'est une autre fin du monde est possible, font preuve d'une certaine bêtise politique. Il y a une apologie de la mobilisation générale, il y a une apologie aussi du survivalisme et de l'alliance que les survivalistes d'extrême droite pourraient faire avec les ZAD, à moins que ce ne soit le contraire, et d'autres joyeusetés de ce genre où il y a une inconscience totale sur les causes et les conséquences de tout ça, avec aucune interrogation sur qui va mener tout ça. Enfin bon, c'est vraiment un truc assez dépolitisé. Je peux vous envoyer cette brochure qui fait une petite quarantaine de pages en format A5 à prix libre, et vous pouvez la demander auprès de Radio Zinzine, 04 300 Liman. Voilà, pour terminer cette émission, je vous propose d'écouter, puisqu'on a encore un peu le temps, un humoriste qui s'appelle Karim Duval et qui a fait un petit sketch qui s'appelle Happy Collapse, l'effondrement, c'est sympa.
Bonjour, Nicolas Brèche, fondateur et CEO de Happy Collapse. Nous proposons des solutions happy fun et décalées pour les gens qui ont peur de l'effondrement, pour que l'on arrête de penser apocalypse, mais happy collapse. Pendant longtemps, j'ai eu peur de l'effondrement. Je n'arrivais pas à concevoir que l'action de l'homme sur l'environnement puisse mener à la fin de notre monde, de notre système, de mon compte Amazon Premium, mes vacances aux Seychelles. J'ai même rêvé un jour que je ne pouvais plus rouler en SUV. C'était un rêve, bien sûr. Mais c'est là que je me suis dit, et si tu voyais les choses positivement ? C'est quand tout s'effondre qu'il y a des opportunités business à saisir. C'est quand on n'a plus rien à secouer des arbres qu'on en récolte les fruits. Et j'ai créé Happy Collapse. Nous prenons une approche globale, 360 de l'effondrement. Il s'agit de se concentrer sur le pendant, mais aussi l'avant effondrement. Pour beaucoup de personnes, le mot effondrement évoque un jour précis. Donc il faut couvrir ce marché du jour J. À cette fin, nous commercialisons des paniers garnis de produits bio locaux et de saison, ainsi que des kits de survie contenant des objets happy fun et décalé, mais utile. Une lampe frontale, un sifflet colibri, un t-shirt de rechange personnalisé, le livre Permaculture, qu'aurait-il fallu faire, et une Kalachnikov. Ces kits sont actuellement testés en situation réelle dans des pays d'Afrique, d'Asie qui vivent l'effondrement sans le savoir. Ils appellent ça la vie. Ces gens-là n'ont aucune notion en collapsologie, mais ce sont d'excellents bêta-testeurs. Et on perfectionne ces kits lors des rassemblements survivalistes du GAFAC, Garonne, Allier, Finistère, Aveyron, Cantal. À ce stade, on a validé un proof of concept, il n'y a plus qu'à passer à l'échelle industrielle. Viser le grand public en jouant sur la peur et la quête obsessionnelle du bonheur. Deux leviers business très sympas à driver. Maintenant, l'avant-effondrement est également une mine d'opportunités. L'éco-anxiété a fait bondir nos ventes d'antidépresseurs. Donc en ce sens, on fait de la croissance verte, mais le cœur de notre métier, c'est quand même l'événementiel. Des team building qui permettent de vivre l'effondrement comme un événement happy fun et décalé. Notre escape game cartonne. Les participants sont mis en condition d'effondrement, à savoir dans une pièce fermée, saturée en gaz d'échappement à 46 degrés, pas à manger, pas de connexion Instagram, rien. Et ils ont 45 minutes pour faire des réunions collapso et tenter de trouver la sortie qui débouche sur un jardin partagé. Et ceux qui réussissent gagnent un butternut, c'est cool. C'est ludique, c'est informel, c'est happy fun et décalé. Un jour, quand j'étais petit, alors que je faisais de la luge, je me suis pris un poteau, en pleine tronche. Pourtant, je me souviens avoir souri pendant toute la descente, alors que le poteau se rapprochait. Et c'est cet enchantement que je veux redonner aux gens face à l'effondrement. Faire renaître l'enfant qu'ils étaient. Les gens disent « Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?» Je leur réponds « Oui, mais quel enfant allez-vous laisser à notre monde ?» C'est l'objet de ma conférence inspirante le 25 novembre prochain à Sucy-en-Brie. Inscrivez-vous. Oui, le storytelling fait partie du business model de Happy Collapse, bien sûr. Il est urgent d'ouvrir les yeux et d'être positif. Il faut arrêter de voir le fleuve à moitié vide. Le fleuve est à moitié plein. De trottinettes électriques, mais à moitié plein. Opportuniste, non. Je préfère parler de symbiose. Je me sens comme le lichen sur un arbre, comme ce petit oiseau qui se nourrit en nettoyant les dents du crocodile. Utiliser le réchauffement de la planète pour en faire un business, c'est juste la nature propre de l'homme qui s'exprime.
Voilà, Karim Duval, Happy Collapse, l'effondrement, c'est sympa, humoriste qui fait pas mal de spectacles encore maintenant, malgré le confinement, et qui a une approche business model assez intéressante. Bon, on termine cette émission consacrée à l'ouvrage de Renaud Garcia, La collapsologie ou l'écologie mutilée, et je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine. Thank you.
c'était Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.